Quelle journée, Pierre-Yves, malheureuse en bourse. Écoute, je sais que toi, tu ne te satisfais pas seulement de l'indice Dow Jones, mais il faut que je le dise quand même parce que c'est le chiffre spectaculaire de la journée. 800 points. 800 points. Une chute astronomique.
Oui, au niveau de la pondération mathématique, c'est moins représentatif, mais c'est quand même représentatif d'une baisse, hein, d'une baisse généralisée. Et t'as raison, là, on regarde les indices. Je sais pas si t'as regardé ton portefeuille aujourd'hui.
Non.
Moi, je suis pas allé voir le mien.
Non, faut pas regarder.
Je suis pas masochiste, je peux pas aller le voir. Mais tu sais, le TSX joue un peu, je suis allé voir un peu le graphique du TSX depuis un an. Ça ressemble beaucoup au monstre à la ronde. On est passé de 16 300 points à 15 000. On est revenu à 16 000, on est rebaissé à 15 000. Donc là, on frôle le 15 000 points. Donc, pas une très bonne année au niveau du TSX, mais certains diront que c'est un moment intéressant pour acheter quand la bourse a été un peu dévaluée. Même chose avec le S&P 500, qui est l'indice le plus représentatif. Ben écoute, depuis le début de l'année, on est rendu à 1% de rendement, mais on a joué au yo-yo, on a monté jusqu'à 2 900 points, et là, on frôle le 2 700. Et le Nasdaq, évidemment, Paul, dans toutes ces décisions-là ou ces réalités-là, c'est l'indice le plus volatile. Imagine, on a perdu 1000 points sur 8000 points depuis la fin août. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, des titres comme Netflix, 5% de perte. Même Bank of America, qui est un titre régulier d'une bancaire, 5,7%. Apple, 4,4%. Facebook, un autre 2,4%. Tu sais, Facebook était à 217$ à son sommet et là, on est à 138$. Donc, faut avoir le cœur solide. Prendre ça tranquille, mais il y en a pas moins que des journées comme aujourd'hui font mal à l'orgueil du portefeuille.
Et les explications derrière ça, je voyais qu'à CNN tout à l'heure, on disait que c'est l'incertitude qui règne en ce moment au sujet de, on peut dire, la querelle commerciale, pas la guerre, la querelle commerciale qui existe entre la Chine et les États-Unis.
Oui, puis Donald Trump, il dit on pourrait attendre jusqu'au 21, au 1er mars là, pour repousser la hausse des tarifs. Mais si tu as une idée, il a mis le feu dans le fond, Donald Trump, puis là, il dit sont où les pompiers, là? Parce qu'il y a un feu. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui est drôle avec la bourse, Paul, c'est que on prédit jamais ce qui va arriver une journée avant. Mais on trouve toujours des explications rationnelles la journée d'après.
Ça, c'est vrai.
La vraie explication rationnelle de la baisse boursière, c'est qu'il y a plus de monde qui ont voulu vendre que de monde qui ont voulu acheter. C'est juste ça. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ça? Ben, une panique. Mais comme on dit, ça me fait toujours rire de dire « Ah, c'est ça ». Mais les investisseurs qui vendent individuellement n'ont pas toujours ces réflexions-là au niveau personnel.
Alors, qu'est-ce que tu penses de ces trois nouvelles entreprises britanniques en intelligence artificielle qui débarquent à Montréal et qui vont créer notamment 130 emplois, de bons emplois, semble-t-il?
Oui, mais ils viennent ici pour notre talent, Paul, pour l'intelligence artificielle et pour le développement. Mais je tiens à mentionner quand même qu'il y a quand même des facteurs à regarder du type un programme d'aide à la recherche industrielle, le programme de recherche scientifique et de développement expérimental. On a aussi un congé fiscal parfois quand on amène des chercheurs étrangers. Donc, on a beau avoir du talent, mais on a quand même des avantages autres. On ajoute à ça que notre dollar canadien est à 1,32 $ canadien pour 1 $ américain et 1,68 $ canadien pour une livre sterling. Donc, tu sais, dans tout ça, on a beau dire qu'on va développer de l'intelligence, on est ici en plein emploi, on vient pas chercher vraiment des emplois faciles à débaucher. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient vraiment profiter de l'avantage stratégique du Québec, c'est-à-dire facilité d'avoir une main-d'œuvre pas chère, pas de l'avoir, mais de payer pas cher. Et deuxièmement, l'aide gouvernementale et le dollar. Donc, c'est plus ça qui est intéressant. Il faut jouer là-dessus. Il faut l'assumer. Ils sont venus ici parce qu'on les aide. T'sais, c'est un peu ça.
Ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Ben oui. Exactement.
Les investisseurs de condos à Montréal qui ne couvrent pas leurs frais, ça, c'est selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements.
Oui. Et là, on a analysé les investisseurs qui louent le condo. Faire attention, pas les investisseurs qui veulent vivre dedans. Mais quand on regarde les condos en location sur Centris, par exemple, on se rend compte que 75% des 375 condos analysés, bon, sont dans les grosses tours de plus de 300, mais ne couvrent pas leurs frais. C'est-à-dire que une fois qu'on a tenu compte de tous les frais, les taxes foncières, les taxes scolaires, et qu'on a tenu compte des frais de condo, ben il y a un flux monétaire négatif de 385 par mois en dollars que le propriétaire doit débourser pour maintenir son capital à flot. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, oui, mais attention, il y a un plus-value potentiel des condos et les propriétaires sont peut-être prêts à faire une perte annuelle pour revendre. peut-être. Quand tu as acheté sur plan une grosse tour à condo, tu veux pas vivre dedans. Mais il faut dire que la majorité des condos locatifs sont dans les grosses tours. Mais ce qui est intéressant comme condo, c'est de se dire, ce qui est plus dur que de voir comme investissement, c'est que, un, le locataire, quand il regarde le prix du condo, puis il regarde le prix de l'achat d'un condo, des fois dans un autre quartier un peu moins cher, finit par se dire, hey, tant qu'à louer ça, je vais en acheter un ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, le client qui veut vraiment louer ça, c'est souvent un client d'affaires qui est là pour 3 mois,
ouais,
qui veut un pied à terre, ouais, proche du centre-ville, et lui ne veut pas acheter. Donc, ça, c'est ton locataire.
Ou quelqu'un qui veut prendre son argent, qui a vécu. Souvent, c'est des couples assez âgés, enfin, assez âgés, qui ont déjà eu 2, 3, 4 maisons et qui disent, je n'en veux plus, je veux récupérer, comme on dit, mes billes et placer mon argent ailleurs.
Et peut-être pour 1 an,
ben
ou
oui,
2,
ben
ou
oui,
3 ans, ou 10 ans, on va
c'est
être en condo.
C'est plein de gens comme ça, là, en ce
d'ailleurs,
moment.
D'ailleurs, j'ai fait un calcul. Un
des baby boomers.
Ben oui, des animateurs radio là qui ont plein d'argent, qui disent, hey, je vais vendre mon condo à 500
000. Pas juste des animateurs radio.
Mais quelqu'un qui a 500 000 $ à mettre sur un condo, qui dit, je vais acheter pour 500 000, qui ont mise de fonds de 20 %, mais ces gens-là payent quand même 2 000 $ par mois en paiement mensuel pour l'acheter, en plus des taxes, en plus des frais
c'est
de condo.
Sûr.
Donc, finalement, ces gens-là, c'est
il y a
sûr
mieux
qu'au niveau
prendre,
de la rentabilité,
il y a mieux prendre
sûr
le loyer mensuel, that's it, ça finit là.
Oui, mais c'est dur de le rentabiliser, cet achat de condo-là à 500 000.
Non, mais ce que je dis, si tu n'achètes pas, si tu vas, si tu restes comme le locataire là-dedans,
exactement,
il va dire, moi, là, je m'en lave les mains, au bout d'un an, je ne suis pas satisfait,
surtout,
je m'en vais ailleurs.
Surtout des condos de luxe où le taux de taxation est beaucoup plus élevé. Tu sais, un condo de 500 000, vous allez payer là 4 100, 4 100, 4 200 en taxes foncières annuellement.
Ouais.
Donc, c'est déjà beaucoup.
C'est intéressant quand même comme conversation. Il faudrait y revenir là-dessus.
Oui, surtout, Paul, pensez, les propriétaires de condos achètent une parcelle du terrain. Donc, devraient payer moins cher qu'une maison, étant donné que on n'achète pas la propriété terrienne aussi grande que quelqu'un qui possède l'immeuble au complet.
Oui.
Donc, toujours ça à penser dans le condo.
Merci beaucoup.
Salut.
Très intéressant. Au revoir.